coucou à vous toutes, à vous tous. C'est bon, votre émission bien entendu préférée du vendredi après-midi en direct sur la radio d'Entre-deux-Mers. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas à Sauveterre de Guyenne, mais nous sommes à la Réole. La Réole capitale aujourd'hui du riz, puisqu'il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Bergère, rentre tes blancs moutons. Je voudrais vous saluer à toutes et à tous. Vous souhaiter un excellent week-end de la Toussaint. Vous demander d'être prudent sur les routes parce que c'est une période accent. On peut le dire, où il y a énormément d'accidents de voitures. Donc faites bien attention, soyez prudents, surtout par le temps qu'il fait. Les routes sont glissantes, donc levez le pied, c'est pour votre sécurité et la sécurité des autres. Trois invités aujourd'hui ici, bonjour à toutes et à tous. Il y a Esther, bien entendu, qui est présente et qui s'occupe de l'émission en direct sur Facebook. Il y a Francis, le président de cette radio de l'Entre-deux-Mers, votre fréquence préférée entre les deux mers et non pas entre les deux grands-mères. J'ai des invités importants. J'ai un invité dont je n'ai pas eu le prénom, mais qui s'occupe de drone. Alors, quel est ton prénom ?
Luc.
Lucien, tu nous viens ?
Luc,
pardon, excuse-moi.
Pas de problème.
C'est vrai, Lucien, ça faisait un prénom plutôt des années 45-50. Luc, c'est beaucoup plus jeune. Donc Luc, un spécialiste du drone.
Voilà, tout à fait.
Donc on va en savoir un peu plus sur le drone. J'ai un invité d'honneur que vous connaissez toutes et tous, qui n'est pas n'importe qui, c'est Monsieur Patrick. Patrick ! Patrick Brossard, non pas un chocolatier, mais le chocolatier, non pas de la Réole, mais le chocolatier qui nous en dira un peu plus sur les cépages et sur les terroirs de cacao. Effectivement, on peut parler de cépages, on peut parler de terroirs, de fèves de cacao, et il en a sélectionné un en particulier, notamment il va nous en parler, il va nous expliquer ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de réaliser. C'est magnifique pour des enfants, et notamment dans cette zone géographique qu'est l'Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Maintenant, en Côte d'Ivoire, il y a énormément de fèves de cacao, laissons les industriels se battre. Lui, il ne travaille pas avec un industriel, il travaille avec un petit producteur, et vous allez voir que son idée, elle est maligne. Derrière tout cela, il appartient à une association qui s'appelle l'Ordre Culinaire International, et nous avons la chance et le privilège, eh bien, d'avoir son président, fondateur, avec monsieur Francis Gardet. Francis. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit Francis, parce que j'allais parler de Francis. Monsieur Philippe Gardet, président fondateur de l'Ordre Culinaire International, avec Francis Mio. À qui nous...
Bonjour, oui, tout à fait.
Bonjour, Francis. Bonjour Philippe. Francis Mio qui nous a quittés il y a 3-4 ans maintenant, malheureusement, il est parti faire des confitures. Il était le spécialiste de la confiture, champion du monde. Il est parti rejoindre les étoiles. Et bien, demain, ce sera la fête, puisque là, tout ça, aujourd'hui, c'est vendredi, la fête des morts, c'est le lendemain, donc ce sera samedi. Donc Philippe Gardet, professeur de cuisine pâtisserie dans des écoles hôtelières, il nous en dira un peu plus. Et nous allons commencer avec Patrick Brossard. Alors Patrick, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton histoire. Et ici, donc, tu as ta chocolaterie à la Réole, une chocolaterie de... Alors, quand on dit haut de gamme, quelquefois on pense à quelque chose de cher. Moi, je dirais de haute qualité. Et ça, c'est important. La qualité, elle est importante. Maintenant, la qualité, elle a un prix. Il est évident que si vous avez l'habitude de manger du chocolat dit industriel, comme 90% de ce qui est fabriqué dans le monde aujourd'hui, délivré par un seul et unique fournisseur, on ne donnera pas son nom parce que ça ne sert à rien de lui faire de la publicité. On n'est pas là pour parler du Nutella, pour parler du chocolat, on est là pour parler de la fève de cacao, de la matière d'œuvre qui donne naissance à ce cacao. Alors, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu pourquoi la fève de cacao, pourquoi le chocolat, parce que tu en parles comme un œnologue parle du vin, tu parles de terroir, tu parles de température, de torréfaction, tu parles de matériel, d'équipement. Et quand j'ai goûté ton chocolat tout à l'heure de fève de cacao de Côte d'Ivoire à 70% de cacao, alors 70%, j'aimerais remettre les choses au point, expliquer que par rapport à une échelle de 100, donc c'est 70% de cacao pour 30 grammes de sucre, enfin pour 30% de sucre. Et plus on va vers 80, 90, on a moins de sucre et plus de beurre de cacao.
C'est ça.
Vas-y, je te laisse parler maintenant, c'est toi l'homme du cacao.
Ben, disons que j'ai démarré il y a 35 ans, donc à découvrir le chocolat. Et ma passion était de sortir du chocolat de la fève. Ce qu'on n'arrivait pas à faire, parce qu'il y a toujours eu l'image que c'était trop dur, fallait passer par les industriels. Et mon obsession m'a permis d'acheter des machines pour découvrir un Venezuela d'abord, après un Pérou, et découvrir des passionnés de l'arbre du cacao. Donc le but était de travailler cette fève, et j'ai réussi au bout de 10 ans d'avoir cette fève de Côte d'Ivoire avec un planteur lui-même. Donc on s'est déplacé directement au pays pour avoir ce planteur et un cru planteur. C'est-à-dire dans la plantation, on a un hectare où on travaille juste cette fève-là sur un hectare qui a forcément un goût spécifique, un arôme spécifique, un goût spécifique. Et l'objectif donc a été de faire cette fève-là et en même temps faire le côté humanitaire pour le village.
Alors le côté humanitaire, ça consiste en quoi, Patrick ?
Eh bien, c'est d'acheter d'abord le produit plus cher pour qu'il soit reversé sur le planteur et l'école. Donc la cote aujourd'hui est d'1,20€ en bourse.
Le kilo. La fève de cacao se trouve à l'intérieur d'une cabosse en fait.
D'une cabosse, c'est le fruit.
Un petit ballon de rugby en fait. Hein.
C'est ça, on peut estimer que c'est un ballon de rugby.
Voilà, un petit ballon de rugby ovale. À l'intérieur, il y a des fèves.
Il y a des fèves, 90 fèves en moyenne.
Voilà, dans une coque, il y a 90 fèves. Oui. 90 pépins en fait, puisque ce sont des pépins.
C'est le fruit carrément qui est dedans.
Oui. Voilà.
Donc on extrait ce fruit et après on fait la fermentation au pays. Au pays, ils font la fermentation.
À quelle température la fermentation ?
La fermentation peut monter à 60 degrés. Donc ça peut être très chaud.
Pendant combien de temps ?
Il y a deux fermentations. Il y a une première fermentation en 2 jours et ensuite on remet dans des bacs ou entre des feuilles de bananier et on fait une deuxième fermentation qui dure 5 jours.
Donc une semaine complète de fermentation au départ avant de torréfier.
Avant de sécher.
Avant de sécher, pardon, excuse-moi, j'ai oublié une étape.
Oui, il faut sécher, donc eux ils sèchent au soleil. Et comme le Pérou, le Venezuela qui est plus avancé, ils peuvent sécher dans des fours à gaz.
D'accord, c'est ce qu'on fait en Europe en règle générale.
Oui, voilà, un peu plus près sur les pays qui ont des investissements sur des fours à gaz. Mais d'accord. En Côte d'Ivoire, ils travaillent encore comme autrefois depuis 200 ans sur le travail du séchage au soleil sur des clés qui sont hors sol à 50 cm et sur du bambou.
D'accord. Donc sur un hectare, il y a combien d'arbres ?
Un hectare, on peut avoir 300 arbres.
300 arbres. Ça fait une récolte de combien de fèves de cacao ?
Alors il y a deux récoltes par an. Donc la première récolte, on peut tirer à peu près, on va dire, 10 tonnes à l'hectare.
10 tonnes à l'hectare. Oui. Et ces 10 tonnes donnent combien de cacao ?
Cacao, on a 10 tonnes finies.
10 tonnes finies. Fini. Donc ok, d'accord.
Il y a 25% de perte entre la peau. La peau qu'on ne récupère pas, qui est autour du fruit.
Oui, donc, on peut la lécher, moi je me rappelle.
Alors ça, on peut, nous on s'est amusé au pays à vouloir goûter parce qu'on nous a toujours dit que c'était très sucré et que les enfants s'en servaient de bonbons parce que là-bas, ils n'ont pas de magasin pour acheter des bonbons. Donc c'est vrai, ils coupent la cabosse en deux, ils s'en servent de bonbons et ils mangent la pulpe, ce qu'on appelle la pulpe, qui est très sucrée, très collante.
C'est ce qu'on faisait.
Et ils recrachent le fruit.
Exactement, voilà. Comme les singes avec le café en Amérique du Sud. Alors, ces 10 tonnes de cacao, tu en as l'exclusivité donc ?
On a une partie d'exclusivité puisque maintenant le but c'est de faire connaître sur la France ce chocolat qui est de Côte d'Ivoire et qui a un goût vraiment spécifique. Donc alors, on est en deuxième année sur l'exploitation de cette fève où moi je torréfie la fève, j'écrase pure pâte de cacao et après on rajoute le sucre de canne et sans lécithine de soja.
D'accord. Sucre de canne raffiné.
Raffiné bio, tout est bio.
Tout est bio.
Oui.
Donc moi j'avoue que je l'ai goûté, cette fève de cacao. Je l'ai posée sur ma langue, une petite pastille avec une épaisseur de 2-3 mm. J'ai mis la langue au palais et j'ai attendu que ça se passe. Alors dans un premier temps il y a ce côté beurré, tout à fait spécifique. Un côté beurré et tout doucement les arômes se développent puisque ma bouche est à 37 degrés, j'ai 4500 papilles gustatives valides, l'acidité, le sucre, l'amertume, mais il y a aussi le waouh final, comme diraient les Japonais, la cinquième saveur, la saveur waouh comme l'on fait, qui est tout à fait exceptionnelle.
On a des notes fleuries.
C'est
une plantation qui a des notes fleuries.
Et nous pouvons parler de cacao et de chocolat, comme nous parlons de vin, puisque bien entendu les arômes se rapprochent très certainement de certains vins, hein, de certains cépages de vin, de certains assemblages de vin. On peut parler de ce cacao, de ce chocolat terminé de façon remarquable. Donc un équilibre exceptionnel, un plaisir incommensurable, et puis je dirais que le cacao, enfin le chocolat quand il est bien fait, qu'il est bien traité, que la fève de cacao était bien traitée, on peut même dire que c'est un antidépresseur.
Exactement.
Hein?
Moi ça m'a toujours fait du bien depuis 25 ans.
Mais t'as bonne mine en plus.
Oui.
Et ça se voit bien. Bien entendu, nous ne parlons que de chocolat, et nous ne parlons que de chocolat traditionnel, de fèves de cacao, de pourcentage de cacao, d'origine. Tout à l'heure, tu as parlé de Venezuela, d'Équateur, on peut parler du Costa Rica, on peut parler de la Papouasie, on peut parler de ces régions du monde. Quelles ont été, en dehors de cette zone géographique et de ce producteur, de ce producteur sur son hectare, quelles sont les autres variétés de cacao que tu aimes, et quels sont les pays que tu aimes mettre en avant dans la fabrication de tes chocolats?
Ben moi, en noir, j'ai 30 sortes de noix. Avec
30 origines différentes?
Oui, 30 origines différentes. Vas-y, dans les 30, j'ai à peu près 12 crus planteurs.
Oh la vache!
Dans 12 crus planteurs, donc c'est une parcelle comme un vin, un château. Donc c'est une parcelle vraiment qui est définie. Après, ça va être chacun au niveau dégustatif qui va flasher plus ou moins sur un goût personnalisé. Si on prend Papouasie, on est plutôt sur des notes épicées. Si on prend un Pérou, on va être sur du bois réglisse. Après, chacun va définir. Ce qui est intéressant, c'est comme là, on a une autre proposition où là, ça m'intéresse et on va sûrement faire un autre voyage un peu plus loin en sortant de Côte d'Ivoire, c'est l'île Sao Tomé. L'île Sao Tomé, c'est l'île chocolat. C'est encore où il y a encore des souches.
L'ancienne possession portugaise.
Voilà, oui, c'est ça. Fait. Donc là, il y a encore des souches primitives de la fève de cacao sur le criollo. Puisque le criollo est une fève, une variété de fève qui est très peu utilisée par rapport à la masse globale du chocolat utilisé. Mais il y a encore des fèves primitives comme le porcelana, qui est une fève blanche, voilà, qui a encore des saveurs différentes.
D'accord. Tu travailles combien de chocolat par an ?
Moi, je suis pas sur.
Je travaille pas aux impôts, hein.
Ouais. Non, je suis pas sur la quantité. J'essaye d'être perfectionniste sur la qualité, et après sur la quantité, on est à 3,5 tonnes. Mais bon, c'est pas le but de faire
du volume.
Du volume, c'est de faire de la qualité. Je pense que nos clients depuis 25 ans reviennent parce qu'ils y trouvent leur compte sur la qualité. Ils ont la qualité marchandise et qualité prix, ils ont tout. Donc on a des fidèles depuis 25 ans.
On parlait du prix d'achat de la matière d'œuvre, de la matière première pour réaliser ce chocolat. Les enfants bénéficient. Quel est le retour pour les enfants ?
Alors le retour des enfants, comme on parlait sur la Côte d'Ivoire, nous on l'achète en vérité 3,50 € au lieu d'un 20.
Et cette différence fait quoi pour les gamins ?
Alors pour les enfants, le premier voyage qui a été fait, c'est pour donner aux 90 enfants de l'école de là-bas.
Écoutez bien, donc, ça a son importance.
Crayon, gomme, ardoise, cahier, on a le conseil général qui a participé.
Crayon, gomme, cahier, ardoise, voilà, les premiers... rendez-vous compte. Alors que chez nous, on est en train de penser iPhone, iPad, voilà. Et là, on parle de crayon, de gomme et de papier.
Donc là, on a pu arroser 90 gamins. Donc,
ça, c'est génial.
On a fait ce qu'on a pu. Et là, on a un autre voyage sur 2021, où on compte faire les 290 gamins, les 6 classes, dans ce petit village perdu, à 50 km d'Abidjan.
50 km de là.
Il y a juste un puits, il y a un puits d'eau, il n'y a pas d'électricité.
N'oubliez pas que la capitale n'est pas Abidjan, hein, c'est Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Capitale administrative, c'est Yamoussoukro, c'est-à-dire c'est un village où il n'y a rien. Les avenues, c'est pire que Roissy, l'aéroport Charles de Gaulle. Et vous avez une basilique qui est beaucoup plus grande que la basilique Saint-Pierre de Rome, qui est inutilisée et inutilisable, puisque pour faire fonctionner l'électricité de cette basilique, il faudrait la production totale de la production d'électricité de Côte d'Ivoire. Elle a été inaugurée en 1989 par une fouette Boigny, et cette basilique est tout à fait exceptionnelle et extraordinaire, puisqu'il y a 4500 places assises et que les 4500 places sont climatisées individuellement à l'intérieur de cette basilique. C'est quelque chose de fou. On est très loin du... Et à côté de ça, à 50 km de là, il y a des gamins qui n'ont pas de gomme, qui n'ont pas de crayon. Et...
Donc voilà. Là, on est 10 chocolatiers à s'impliquer sur Kenzi. C'est le nom du petit village, Kenzi. On a été reçu par le chef du village, où on veut continuer sur une dizaine d'années à aider le village. D'abord les enfants et après essayer de retaper l'école.
Bien sûr. Eh bien, nous allons continuer cette émission avec le drone, bien entendu. Enfin, le drone. Les drones. Non pas la rivière qui passe à côté de Saint-Émilion et du Libournais, puisque c'est vrai qu'il y a la drone qui est là-bas. Nous allons parler des drones et nous reviendrons avec, bien entendu, Philippe Gardette, président fondateur de l'Ordre culinaire international et grand professeur de cuisine dans des écoles hôtelières. C'est-à-dire qu'il s'occupe de la pépinière de demain. Il s'occupe de nos jeunes de demain, qui deviendront bien les futurs chefs, pourquoi pas, étoilés s'ils le désirent. Et voilà, il ne fait pas très beau à la Réole, mais la chaleur est dans nos cœurs et le soleil brille. Et la radio de l'Entre-deux-Mers, votre fréquence préférée, eh bien ne changez pas, ne zappez pas. Allez, un petit morceau de musique, chaud cacao ? Non, allez, je plaisante.
Nous, ce qu'on veut, c'est vivre ensemble. Faire la teuf quand la terre tremble. Nous, ce qu'on veut, c'est oublier ce qui nous fait peur. 60 fois par heure. Quand on s'aime, puis ta liberté dans la mienne. Comme on se donne la main quand on s'aime, puis ta liberté dans la mienne. Comme on se donne la main quand on s'aime. C'est facile, les générations passées. Passées, nous sommes la génération. Passons, passons. Tout ce qu'on veut, c'est tout maintenant. Des écrans, on fait danser nos tristesses. Tiens, la vie, on laisse. Nous, nos rêves, on veut y croire. Pour le fun, pas pour la gloire. Entre virtuel et lumière, lumière. Oh. Et d'année, enfer. Here we go, let's light the sky. Here we go, let's make a star. Here we go, here we go. La liberté dans la mienne. La main quand on s'aime, comme on se donne la main, comme on se donne la main, comme on se donne la main quand on s'aime. Nous, nos rêves, on veut y croire. Pour le fun, pas pour la gloire. Hey, entre virtuel et lumière, et d'année en fer. Cette liberté dans la mienne. Comme on se donne la main quand on s'aime. Et ta liberté dans la mienne. Comme on se donne la main quand.
J'espère que vous passez une très belle fin de journée sur votre radio préférée, la radio de l'Entre-deux-Mers, qui s'est déplacée pendant ces trois journées, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, en direct de la foire de la Réole, la fameuse foire de la Toussaint qui existe depuis plus de 10 siècles, rendez-vous compte, 10 siècles, 1000 ans de foire de la Toussaint. Enfin, ne nous affolons pas non plus, parce que un siècle, c'est jamais que 36 500 jours. Hein. Donc l'espérance de vie d'un être humain sur la planète, 82 ans, ça représente à peu près 28 000 jours. On a 28 000 jours pour partager tout ce que l'on a envie de partager sur cette planète. Et après, nous partons pour une autre planète, briller dans le ciel étoilé ou largement déjà largement garni. Je suis avec Luc, non pas Saint-Luc et non pas Lucien, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Lucien, c'était du temps de ma jeunesse sur une radio qui s'appelait France Inter, le jeu des 1000 francs. Le jeu des... Bref, Lucien Jeunesse. Alors Luc, toi tu es spécialisé dans les drones. Alors explique-nous un petit peu comment cela t'est-il venu, parce que c'est certainement une passion, et la passion c'est la force de croire. Donc comment t'est-il venu l'idée, l'envie, le besoin de tout simplement de commercialiser, parce qu'en fait tu commerces des drones, tu les vends, mais il y a une formation, tu les fabriques peut-être?
Alors, je vais vous expliquer. Oui, bonjour. J'ai créé il y a plus de 2 ans maintenant une société qui s'appelle Drone 40. Ce que je fais réellement avec les drones, je ne les vends pas, je ne les fabrique pas, mais je fais uniquement de la prise de vue aérienne, donc ce que vous pouvez voir à la télé par exemple. Mais je travaille aussi beaucoup pour les professionnels, c'est-à-dire les professionnels du tourisme, les professionnels du BTP, les professionnels du bâtiment également, pour le suivi de chantier. Je travaille aussi pour les agriculteurs qui veulent faire de l'inspection sur leurs champs. On envoie le drone, on fait de la vidéo ou de la photo, et on peut exploiter les photos qu'on veut grâce à ces images, puisque le drone va se déplacer très rapidement. Par exemple, pour de la sécurité, si on veut inspecter des clôtures, des cheminées ou des tuyaux sur une entreprise, on peut regarder comme ça les tuyaux sur plusieurs kilomètres très rapidement.
Alors, une question me vient tout de suite à l'idée. On ne peut pas faire voler un drone n'importe où, n'importe quand, n'importe comment.
Exactement, oui, tout à fait.
Alors, quelle est la législation en fait ?
Alors, la législation en France, elle est très compliquée, et tant mieux. Puisque le ciel, on le partage quand même avec des hélicoptères.
Des avions.
Avec des avions,
des ULM.
Des ULM.
Des oiseaux.
Voilà,
des oiseaux. Et Icar qui de temps en temps se balade.
Les oiseaux, c'est pas très grave encore, mais les avions ou les hélicoptères, ça serait embêtant pour eux. Donc, donc déjà, il faut passer pour piloter un drone, il faut passer un diplôme de théorique de pilote ULM. Donc c'est un diplôme théorique de pilote d'ULM. Donc déjà ça limite les choses. Et après, avant chaque vol, vous faites une déposition à la préfecture pour avoir l'autorisation de vol.
D'accord.
Voilà.
Comme un avion qui décollerait d'une base aérienne.
Exactement, sauf qu'on l'a fait 5 jours avant.
D'accord, 5 jours avant.
Avant le vol.
Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des distances, des hauteurs à respecter, des kilomètres, des vitesses, du bruit, je ne sais pas, moi, je découvre le drone.
Oui. Il y a tout ça à respecter. Donc, il y a une hauteur maximum de 150 mètres.
Pas plus,
mais c'est déjà beaucoup. Hein.
La moitié de la tour Eiffel.
Voilà, exactement, super. Et 150 mètres, déjà, les bonhommes sont tout petits en bas. Hein. Donc c'est déjà pas mal. La distance maximale, en longueur, on va dire, c'est à vue. On n'a pas le droit de le perdre des yeux.
D'accord.
D'accord, donc tout dépend de votre vue.
La vue normale, avec ou sans lunettes, c'est...
Ça dépend du temps également. Donc si il fait clair et que vous avez un ciel blanc, là vous allez le perdre plus rapidement. Mais en général, à 100 mètres de distance, vous le voyez encore.
D'accord, donc une centaine de mètres autour de vous en diamètre, donc ça fait déjà un joli cercle. Hein.
Exactement,
ouais, déjà un joli cercle. 150 mètres de haut et 100 mètres de distance. Donc tu as créé ta société il y a deux ans.
Oui,
et maintenant, qui fait appel à toi alors ? Et comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça coûte ? Alors, excusez-nous parce que de temps en temps il y a du bruit. Vous entendez, curieusement, la SNCF travaille. Donc je voudrais remercier, bien entendu, tous ceux qui ont compris qu'un jour, il fallait travailler pendant 8 heures. Mamiraï est sortie. Mamiraï travaille et les trains circulent. Je suis ébahi, je suis stupéfait, Mais vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. En France, il y a des trains qui roulent. Merci les syndicats Sudrail, merci FO, merci la CGT, parce que aujourd'hui, un jour férié, il y a des gens qui travaillent à la SNCF. Il faut le mentionner, ça arrive de temps en temps. Alors c'est peut-être pour fêter le départ de Monsieur Pépi, le petit-fils de Dalida, vous savez, celui qui a un strabisme convergent-divergent, qui est le seul à Roland-Garros à ne pas avoir à tourner la tête quand il regarde un match de tennis. Il a un œil qui compte les noyaux et l'autre qui crache les cerises. Bref. Il faut bien rigoler un peu de temps en temps. Merci Mamiraï de travailler aujourd'hui. C'est vraiment sympa, non, vraiment, vraiment. Eh oui. Donc, alors, excuse-moi, je reviens vers toi. Je t'écoute.
Super.
Je t'ai coupé la parole.
Non, merci pour cette touche d'humour. Par contre, je ne sais plus où on était.
tu as raison. Alors, nous sommes à la Réole. Nous sommes le 1er novembre de cet an de grâce 2019. La veille de la fête de la Toussaint, la veille de la fête des morts, demain samedi le 2 novembre. Samedi, nous serons dimanche le 3 et lundi le 4. Nous parlions de l'autorisation de drones et nous parlions de tes clients qui faisaient appel à toi, pour quelles raisons et que coûte, éventuellement l'utilisation d'un drone. Est-ce que ça se paye à l'heure, à la mission? J'ai pas beaucoup d'idées là-dessus.
Oui, alors tout d'abord, les clients, donc c'est assez varié, hein, puisque ça va de l'huissier qui veut faire un constat, par exemple, sur un toit. Donc avant, l'huissier, il louait un échafaudage, il montait sur l'échafaudage, il fallait monter l'échafaudage. Donc ça prenait du temps et bien évidemment, ça coûtait cher. Donc là, en 15 minutes, on a envoyé un drone sur un toit pour voir les dégâts qui pouvaient être causés.
Avec beaucoup plus de précision en plus.
Oui, bien sûr, puisqu'on peut agrandir la photo, on peut agrandir la vidéo, on peut faire ce qu'on veut, on peut zoomer sur ce qu'on veut, quoi, sur les moindres détails.
Des particuliers, des entreprises, des associations peuvent faire appel à toi.
Alors voilà, je reviens aux clients potentiels. Moi, je travaille surtout pour les entreprises. Ça s'est fait comme ça, un peu par hasard. Donc il y a aussi bien les agences immobilières pour vendre les maisons.
Bien sûr.
Tout simplement, hein, les grands domaines. Vous avez donc, je disais, les professionnels du bâtiment, donc aussi bien les constructeurs de maisons individuelles pour leur site internet ou pour les réseaux sociaux qui veulent mettre un peu leur réalisation en avant. Mais ça peut être également la personne qui fabrique uniquement les gouttières et qui veut mettre en avant ces gouttières qui sont sur ces fameuses maisons, qui veut faire voir un petit peu son travail, sa façon de fabriquer. Donc ça peut être vraiment très, très spécifique. Il y a les entreprises, comme je disais tout à l'heure, industrielles. Donc là, ça va être de l'inspection d'ouvrage, ça peut être de l'inspection sur un pont, ça peut être de l'inspection sur des tuyauteries ou des cheminées, tout simplement, ou également des toits, ou sur un terrain, bien évidemment, un terrain agricole ou forestier.
D'accord. Voilà. Je suis une entreprise, j'ai besoin de tes services, c'est facturé à l'heure, à la mission, comment ? Alors, je ne travaille pas aux impôts, hein. Donc tu travailles hors taxe pour les entreprises ?
Bien sûr.
Quel est le taux horaire ? Quel est le taux horaire ?
Alors, on ne peut pas parler en taux horaire, mais ça se pratique à la mission. Donc, tout va dépendre de la mission et du temps passé sur place. Donc, ça, c'est un petit peu... je ne veux pas dire que c'est fluctuant, c'est pas la tête du client.
C'est à la carte. Quoi.
C'est à la carte, exactement.
Un petit peu en fonction de ce dont mais une idée de prix, par exemple, si j'ai une agence immobilière, j'ai une maison à vendre, j'aimerais faire quelques vues aériennes, notamment avec des choses précises de l'environnement, de ce qui se passe à gauche, à droite. Ça me coûterait combien, par exemple ?
Alors, tout en respectant le droit à l'image, bien évidemment.
Oui, okay. Important ça aussi, ne l'oublie
exactement.
Pas, n'est pas le droit de filmer chez les voisins. Hein.
Exactement, voilà. Donc c'est très simple, hein, l'intervention va coûter à peu près entre 500 et 700 euros. Alors pourquoi une telle fourchette ? Parce qu'il y a la retouche de photo, tout simplement. La retouche de photo, donc elle est obligatoire, hein, c'est pour remettre soit de la couleur, parce que forcément la couleur elle va pas être peut-être au rendez-vous. C'est pour également cacher les détails qui peuvent embêter. Ça peut être le voisin, par exemple, qui est dans sa piscine et on n'a pas envie de le voir. Donc là, on va le flouter, on va le cacher, on va cacher sa maison également. Donc voilà, tout dépend des petits détails qu'il y a à cacher derrière. Mais on va être entre 500 et 700 euros pour un agent immobilier.
Le matériel que tu utilises, donc, c'est du matériel... quel est le prix d'achat d'un drone professionnel ? Puisque là, on n'est pas dans le jouet, on est dans le professionnel. Un drone ?
Alors le drone en tant que tel, juste le drone pour ma part il coûte à peu près 1800 euros. Après bien sûr on rajoute
des options.
Des options, on rajoute des batteries, on rajoute des consoles, on rajoute un tas de choses, ce qui fait monter la facture, plus le logiciel de traitement de retouche photo ou le logiciel de montage vidéo, tout ça ça coûte de l'argent bien évidemment.
D'accord. Et le temps maximum qu'un drone peut voler aujourd'hui avec ses propres batteries ?
Alors une batterie, elle est donnée à peu près pour 25 minutes, donc sans lutter contre le vent et en vol statique. Donc dès qu'on bouge ou dès qu'on utilise de la vidéo, dès qu'on filme, pardon, bien évidemment ça va tirer sur la batterie. Si on est face au vent, ça va tirer sur la batterie, donc ça va forcément utiliser plus de batterie.
J'ai vu cette semaine qu'il y a un Anglais qui a trouvé le secret de la batterie qui se recharge tous les 2500 km. Je ne sais pas si tu as vu ça.
Non, je ne connais pas. J'ai pas votre culture encore.
Bon, c'est pas une question de culture. Non, il y a un Anglais qui a trouvé une batterie, notamment pour les véhicules automobiles à propulsion ou à traction, rechargeable tous les 2400 km. Ça a été approuvé et validé par deux grandes écoles françaises et ça va être une véritable révolution dans les jours à venir. 2400 km avec une batterie, une autonomie folle et qui se recharge en 20 minutes, quoi. Un truc de fou. Donc, tu as combien de drones ?
Oh, j'en ai deux. Moi, je fais vraiment de la photo et de la vidéo, donc j'ai pas besoin d'avoir beaucoup plus de drones. C'est un drone supplémentaire. Pour des raisons de sécurité, si jamais j'avais un problème de panne, ce qui n'arrive jamais parce que c'est très très fiable, hein. Ça fonctionne avec le GPS, donc c'est d'une fiabilité énorme.
Il y a un entretien sur les drones ?
Pas du tout, tout est électronique, tout est électrique, c'est comme les voitures électriques, je dirais. Aujourd'hui, il n'y a aucun entretien, il ne faut pas le faire voler par temps de pluie, bien évidemment, on va éviter. Malheureusement, aujourd'hui, je devais faire une démonstration, bon, bah, je crois que c'est un petit peu embêtant, mais ça va être compromis. Ouais. Je crois pour les 3 jours à venir, mais
compromis, chose due.
Voilà. Et je voulais juste rajouter quelque chose, puisque on a parlé des clients un petit peu, mais j'ai aussi tous les professionnels du sport, qui font appel à mes services, puisque on peut par exemple filmer les rugbyman qui s'entraînent, puisque vous pouvez les filmer dans tous les axes. Vous avez aussi tous les professionnels.
Ce qui permet donc aux équipes de performer, de corriger des défauts, des erreurs de certains avec une précision horlogère.
Exactement. Je parlais du rugby parce qu'on a la finale bientôt, demain. Et j'ai également tous les professionnels du tourisme, c'est-à-dire les campings, les hôtels, les restaurants, j'en passe, et les meilleurs, les gîtes. Donc voilà, il y a tous ces professionnels-là.
Bien sûr. La durée de vie d'un drone ?
Bah écoutez, c'est... Pour l'instant, je ne l'ai pas testé puisque ça fait que 2 ans, je dirais malheureusement. Mais je pense que non, du moment qu'on ne prend pas de branche, je pense que ça peut durer très très longtemps.
D'accord.
La durée de vie, c'est surtout les batteries. Il faut être très très soigneux pour les batteries.
Et le matériel vient d'où, si ce n'est pas indiscret? C'est du matériel fabriqué ou en Chine?
Eh oui, en Chine malheureusement. Oui. Ouais. Malheureusement parce que j'aimerais bien que ça vienne de France.
Bien sûr, mais
aujourd'hui, il y a des,
Luc, tu as raison.
Il y a des fabricants en France qui sont très performants. Qui commence à rattraper les Chinois, donc j'espère que...
Quelles sont les marques françaises connues?
Parotte, par exemple.
Parotte, oui, c'est vrai.
Donc j'espère que un jour ils seront au niveau, qu'ils vont les dépasser même. Et voilà, moi j'ai à cœur aujourd'hui de faire travailler, je le dis sans honte, j'ai à cœur de faire travailler les Français.
Mais tu as totalement raison, Luc, et nous en sommes tous là aujourd'hui. Et si nous sommes réunis aujourd'hui à l'Aréole, c'est pour cela. Et je voulais remercier une personne en particulier aujourd'hui, c'est Damien, qui travaille sur l'Aréole. C'est le technicien, c'est notre collaborateur de la radio. Je voudrais le remercier et lui faire des gros bisous, parce qu'il est là, même un jour de Toussaint, alors qu'il aurait pu partager sa vie avec sa famille. Eh bien non, il est là, il partage avec nous, et pour que cette émission se déroule le mieux possible. Donc, pendant que l'on va passer un deuxième morceau de musique, et que l'on va attaquer avec Monsieur Philippe Gardette et son indémodable casquette en sky, non, en cuir, en peau de vache retournée. Voilà, c'est du cuir, tu peux le bouffer, c'est de la vache. Donc il a une casquette saignante sur la tête. Nous reviendrons bien entendu sur l'ordre culinaire international. A tout de suite, mes amours.
Il y a une drôle d'odeur dans la cuisine.
deux possibilités, envie ou besoin de contacter Drone. Donc je vais vous donner le numéro de téléphone. Alors Luc, L-U-C, Serveux, S-E-R, non attendez, il y a un tout petit problème, vous avez pris le mauvais crayon, vous avez pris le mauvais bic, il ne fonctionne pas celui-là. Je vous donne le temps de prendre un bic et un morceau de papier. Non, pas celui-là. Oui, à côté du bleu. Voilà, oui, voilà, celui, oui, sur les sudoku. Vous l'avez accroché avec les sudoku aux toilettes. Alors dépêchez-vous, allez-y. Quoi, il y a quelqu'un aux toilettes? Oh là là. Bon, prenez votre bon stylo, votre bon bic, celui que vous aimez rousiller par le haut. Vous notez le téléphone pour avoir un entretien avec Luc Cerveau, qui pourra vous rendre service, bien entendu, moyennant finance, au 07 67 48 61 12. Je répète, 07 67 48 61 12. Vous êtes moderne, c'est un numéro de portable, bien entendu, mais il a également un site internet. En minuscule, tout attaché, L Serveux, L minuscule Serveux, S-E-R-V-E-U-X, @gmail.com. Je répète, L Serveux, @gmail.com. Mais vous pouvez aller voir sur le site tout ce qui peut se passer, www.drone40.fr. Je répète, www.drone avec un seul N. 40.fr, 40 étant le numéro du département, un des plus beaux départements de France, les Landes. Et oui, ça vous le savez. Donc Luc, merci. Nous souhaitons que cette émission eh bien, ait pu te donner un bon coup de visionnage. Et on va peut-être assister, si la pluie se cache un petit peu, demain, à un vol de drone. Pourquoi pas demain? Apparemment, il devrait faire beau. Voilà, donc maintenant, je vais passer la parole à monsieur Philippe Gardette, qui nous est venu d'une rue que j'aime beaucoup. Il habite rue Jacques Brel. Imaginez-vous, Jacques Brel, l'inénarrable, l'irremplaçable Jacques Brel, qui nous a quittés en 1977 et qui, avant de partir, a fait un disque mémorable où il traitait les flammes en garde, « Je vous emmerde », ces belles chansons, Jacques Brel, le poète, ordre culinaire international. Philippe, d'où ça vient, d'où ça sort, pourquoi, comment, le pourquoi du comment? Oui, et qu'est-ce que tu es venu faire à la Réole cette année?
Donc, l'Ordre culinaire international, association loi 1901, où on a mélangé en fait tous les métiers de bouche. Donc des cuisiniers, des pâtissiers, des bouchers, mais aussi des viticulteurs, des éleveurs. Tout ce qui se mange, tout ce qui se boit, on peut les trouver chez nous.
D'accord. Donc tout ce qui passe dans la bouche, avec certaines
réticences. Presque tout.
Presque tout. Donc,
presque tout.
On n'a pas parlé de la ville de Saint-Claude, capitale de la pipe, dans le Jura, bien entendu, une grande ville à la frontière suisse, à côté de Ferney-Voltaire. Le fameux d'ailleurs, Voltaire était né à Ferney, c'est pour ça que la ville s'est appelée Ferney-Voltaire, à la frontière suisse. Alors, tout ce qui se passe dans la bouche, c'est-à-dire les métiers salés, sucrés, chauds, froids, allez, explique-nous un peu, tu valorises quoi?
Voilà, et bien tout, en fait, les produits du terroir, bien sûr, on travaille qu'avec des artisans. Donc les produits des terroirs et surtout les hommes et les femmes qui travaillent ces produits-là, qui les mettent en œuvre.
Donc mettre en œuvre des terroirs, mettre en œuvre des produits, mettre en œuvre des producteurs, mettre en œuvre des transformateurs, mettre en œuvre des régions, mettre en œuvre le soleil, mettre en œuvre un petit peu tout, ce qui est rond, ce qui est carré, ce qui est rectangulaire, triangulaire.
Tant que ça reste artisanal, oui, tout à
voilà.
fait.
On Absolument. Ne parle pas de l'industriel.
Ah, pas du tout, pas chez nous.
Pas chez vous. Combien de membres dans cette association?
À peu près 480.
480 membres.
Qui sur la France.
Je crois qu'il y a un parrain connu de cette association.
Il y avait Joël Robuchon qui n'est plus là non plus.
Joël qui nous a quittés il y a un an et demi, il nous a quittés. J'étais avec lui quelques semaines avant son départ pour aller à la quête, comme l'aurait dit Jacques Brel, l'inaccessible étoile dans cette chanson de l'Hombre de la Mancha. L'inaccessible étoile de Jacques Brel, toujours lui. Oui, Joël nous a quittés il y a un an et demi. On lui fait un gros bisou. Il y a des chefs étoilés là-haut. Il y a Joël Robuchon, Monsieur il y a Bocuse. Paul Bocuse. Il y en a Bernard Loiseau. Enfin, bref, les étoiles, elles brillent.
Il y a du monde là-haut.
Il y a du monde là-haut.
Ils nous regardent.
Ils font banquet tous les jours. Avec salut les étoiles.
Et avec Francis. Et avec si on Francis. Est là, c'est grâce à Francis, si on est tous là aujourd'hui.
Si on est tous là réunis, je fais partie également, moi, de cette association, l'Ordre culinaire international. Francis Mio, plusieurs fois champion du monde de confiture.
Triple champion du monde.
Triple champion du monde. Il était à Usos.
à Uzos, à côté de Pau.
À côté de Pau, dans le Béarn.
Avec là. Les coucougnettes.
Avec ces fameuses pâtisseries, les coucougnettes, effectivement. Mais surtout, ces confitures de très haute qualité. L'homme qui a compris qu'il fallait cuire d'abord le sucre avant les fruits. Et cuire le fruit moins de 15 minutes pour préserver la texture, la couleur, les vitamines hydrosolubles.
Et le goût.
Et le goût, bien entendu, chose importante dans la confiture. Donc toi, tu es président de l'Ordre culinaire international et tu vas de salon en salon prêcher comme un prédicateur avec tes lunettes rouges rectangulaires.
Ça bouge beaucoup, oui. C'est vrai qu'on se déplace pas mal sur toute la France toute l'année.
Toute l'année. Mais tu es également.
On vient de Bastia, là. On était à Bastia encore la semaine dernière.
Oui, Bastia, salon du chocolat.
Voilà, tout à fait.
Comment ça s'est passé ?
Super bien, comme d'habitude. Du soleil, du monde partout.
Avec
génial.
Paul Pirenili, qui est le fondateur de ce salon du chocolat de Bastia en Corse, que nous saluons. Ce pays corse, ce pays ami avec la France, d'ailleurs, il faut le souligner, hein, d'après certaines personnes en Corse. La Corse est un pays ami avec la France. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On est bien reçu là-bas, ça se passe toujours bien.
Avec Paul, il y a de quoi faire. Puis avec la myrte, le cédrat, c'est une des régions de France, d'une région du monde où l'on cultive le cédrat, ce fruit exceptionnel originaire d'Inde.
Très bon.
Exceptionnel, la myrte.
Très, très bon.
Ah oui, et puis de la charcuterie, des fromages. Bref. Tu es venu à l'Aréole, pourquoi faire ? Quel est le but de ta présence ici sur l'Aréole ? Je crois que tu t'es occupé du village gourmand avec la radio de l'Entre-deux-Mers.
On est venu faire un petit peu l'animation avec quelques artisans avec nous pour présenter aussi leurs produits, comme je disais tout à l'heure.
Donc il y a un producteur de champion du monde d'ailleurs, lui aussi.
Voilà, tout à fait, Patrick Fouquet qui est champion du monde de confiture. On a aussi, bien sûr, M. Patrick Brossard, chocolatier.
Monsieur Brossard, qui fait partie de l'Ordre culinaire international aussi avec fierté.
Incontournable du cru.
Mais pas que du cru, hein. Qui l'eût cru, mais pas que du cru. Il a un rayonnement international. Il s'occupe également, et nous pouvons déjà le dire, le 16 et le 17 novembre, c'est le Salon du chocolat organisé par le club Kiwanis de Marmande. Un très 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 beau salon du chocolat dans cette zone géographique absolument merveilleuse dont on parlait tout à l'heure. Marmande, capitale de la tomate également aussi, capitale des confitures avec Lucien Gergelin, le fameux
aussi,
confiturier très connu, et la ville de Beaupuit au-dessus de Marmande qui a chaque année un championnat du monde et un grand concours de confiture.
Qu'on a créé il y a quelques années avec Francis.
Exactement, qui a été créé avec Francis Mio.
On en était à l'origine, tout à fait.
Voilà. Et maintenant, professeur où ça, comment, pourquoi ?
Alors oui, professeur de cuisine et pâtisserie au lycée de Dugny. Dans le 93. On en parle beaucoup en ce moment du 93. C'est d'actualité,
oui.
Je crois.
C'est ce qu'on appelle le 9-3, nous, ici.
Oui, parce que le 9-3 ou le 9-cube, comme on veut.
Ou le 9-cube, oui. Nous, ici, on est dans le 3-3. Monsieur est dans le 4-0. Mais c'est bien de parler comme ça fait jeune. On est bien. On est. De toute façon, Paris n'est pas la France. Hein. Paris n'est
c'est
pas
clair.
La France, mais la France, c'est bien c'est la propre. Ruralité. Et la richesse est dans la ruralité.
Tout à fait.
Tes élèves, tu les formes à quoi, donc?
Alors, moi, je forme de futurs managers.
D'accord.
Donc, ils doivent finir comme directeur de restaurant, directeur d'hôtel ou chef de cuisine.
D'accord. Donc, F&B, Food and Beverage Manager.
Tout à fait. Tout à
je
fait.
Sais que tu es revenu il n'y a pas très longtemps d'un pays où les gens ont les yeux bridés et que ce pays porte un nom bien précis, c'est le Japon.
Le Japon, oui.
Tous
les ans, je vais passer 3 semaines là-bas aussi, pareil, pour faire des formations de cuisine et organiser des concours.
D'accord.
C'est génial. C'est un pays super génial.
Le pays des banzai, des kamikazes, dont la fleur de cerisier était l'emblème, puisque c'est la seule fleur d'arbre qui tombe sans être fanée. C'est pour ça que les Japonais ont toujours pris des photos et vénèrent un peu le cerisier. C'est la seule fleur au monde qui tombe en n'étant jamais fanée.
Tout à fait.
Et pourquoi tu vas au Japon alors ?
Ça, c'est début mai et c'est génial. C'est vraiment un beau spectacle.
Ouais. Ah bah, il faut toujours se faire photographier sous les cerisiers
en fleurs.
Là c'est le Japon. Et qu'est-ce que tu fais au Japon alors?
J'y vais pour faire des formations sur la cuisine française, spécialement sur les grenouilles et les escargots.
Les grenouilles et les escargots. Alors effectivement, parce qu'on nous critique dans le monde, New York vient de nous interdire le foie gras en 2022. On sait bientôt plus ce qui sera tolérable, pas toléré. On a des traditions, on les respecte. On n'empêche pas les Australiens de manger du kangourou. On n'empêche pas les Chinois de manger des chiens. On n'empêche pas les Français de manger des grenouilles, des escargots. Mais on s'attaque. Alors, grenouilles, escargots, d'abord, lesquels escargots ? Le Bourgogne ou le petit gris ?
Les deux.
Les deux.
J'emmène les deux, leur faire voir les deux. Et c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment, ils en raffolent.
Ils en raffolent, ils sont pas réticents.
Ah non, pas du tout.
D'accord.
Pas du tout, vraiment ils adorent ça.
Et la grenouille ?
Et la grenouille, pareil, même chose, hein. Je fais plein de recettes avec, toujours des choses différentes pour avoir plusieurs façons de les travailler et de les manger. Mais c'est vraiment génial, quoi. Ouais. Et la dernière fois que j'y suis allé, en plus j'ai envoyé mes recettes avec mes produits avant. Et en fait ils ont fait des essais eux-mêmes et ils ont fait la démo mieux que moi quand je l'ai fait. C'était génial.
Mais quand les élèves dépassent le maître, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Il n'y a pas de honte à cela. Bien au contraire, ça prouve que le message passe bien. Chez nous, il y a eu un tout petit problème technique, mais il y a de l'eau dans les tuyaux. Il pleut tellement ici que demain, on fera une émission spéciale avec monsieur. On aura un invité d'honneur qui est l'oncle Benz, qui viendra parce qu'il va faire une plantation de riz à l'aréole. Et si ça continue, la Garonne va venir nous chercher. Nous allons repartir à Bordeaux à la nage. Donc,
on va venir avec les pneumatiques demain.
Comment ?
On va venir avec les pneumatiques demain.
Mais il y a beaucoup d'eau à l'aréole.
Pédalos, etc.
Mais venez quand même, c'est pas parce qu'il y a de l'eau, il faut arroser les belles plantes. Oui, donc l'Ordre culinaire international a été créé quand ?
Eh bien, ça fait 10 ans maintenant, justement. Donc, ça fait 10 ans, c'est la 10e année. Et toujours avec Francis Mio, on était tous les deux au départ à la base.
Oui, je connais bien Francis.
Beaucoup de monde ont suivi après derrière, mais c'est vrai que c'est encore Francis.
C'est encore Francis, oui. Quel est l'objectif de la semaine prochaine, de la semaine d'après, des semaines d'après, qu'est-ce qui se passe ?
Là, on va commencer un petit peu à se calmer. Là, pour l'instant, la semaine d'après, quand même à l'école. La semaine prochaine, on finit la finale.
Tu as l'école du lundi au vendredi ?
Non. Non, moi, j'ai compressé mes horaires. Je travaille que 2 jours et demi. Lundi, mardi soir, mercredi et jeudi. Mais sur ces 2 jours et demi, je fais mes 35 heures quand même.
35 heures en 2 jours et demi.
Voilà, comme ça j'ai du temps pour faire autre chose. Par contre, oui, la semaine prochaine, on met en place, on fait la finale du meilleur apprenti de France en art du service de la table.
En art du service de la table, couteau à droite, fourchette à gauche. Bref, l'art de service à la table, ça fait partie de nos, là aussi, de nos fiertés nationales et des métiers ô combien malheureusement décriés. Les métiers manuels sont des métiers décriés. Les parents, moi, quand j'ai voulu faire de la cuisine et dire je vais aller à l'école hôtelière, mais c'est tout, ils ne m'ont pas dit que j'étais fou dans les années 60, 64, 65. Mes parents étaient fous furieux, quoi. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il veut faire de la cuisine ? Il est malade, ce petit. On m'en fait rencontrer un pédopsychiatre.
Donc, c'est bizarre, mais c'est la même chose pour les miens.
C'est la même chose pour toi.
Ils ne comprenaient pas trop plus ce que je voulais faire. Et puis, il m'a dit, tu te rends compte, tu as travaillé quand les autres ils s'amusent. Ils sont en repos, tu te rends compte ?
Non, puis on s'imaginait que le cuisinier était quelqu'un de bedonnant et joufflu, alcooleux, avec un mégot, enfin, la chanson de Pierre Perret au Torboyau, quoi.
Torboyau.
Ouais, c'était ça l'image des années 60, les colonies de vacances, le Torboyau. Mais moi, j'ai toujours voulu faire de l'hôtellerie et du tourisme, et ça m'a emmené dans le monde entier, ça m'a fait vivre sur les 5 continents, et je n'ai rien à regretter.
T'as été professeur, toi aussi, je crois bien ?
Ben, pendant 15 ans, oui. Amérique du Sud, Amérique centrale, Océan Indien, Afrique de l'Ouest. Bref, pendant 18 ans exactement, j'ai été professeur et dirigé des écoles hôtelières. Je peux vous assurer que c'est un plaisir ô combien exceptionnel. Je suis parti pour transmettre, et je suis revenu plus riche que je ne l'étais parti. C'est-à-dire que je me suis enrichi intellectuellement. Je ne parle pas de richesse. Monnaie sonnante et trébuchante. Je me suis rendu compte que j'avais autant reçu que ce que j'avais pu apporter. Et ça n'a pas d'équivalent.
C'est tout le temps, c'est souvent le cas. Oui.
Vous êtes professionnel, vous voulez adhérer à l'Ordre culinaire international. Philippe, donne-nous tes coordonnées, l'adresse mail, s'il te plaît.
Il faut aller sur le site internet ordreculinaire.com.
Ordreculinaire.com.
Tout est dessus.
Tout est dessus.
Absolument. C'est facile, il n'y a plus qu'à retirer un dossier, le remplir et l'envoyer au siège.
Et l'envoyer au siège, et vous allez être membre de l'Ordre culinaire international et participer à nos manifestations partout en France et dans le monde. Tu ne vas pas qu'au Japon d'ailleurs, à l'étranger ?
Non, je vais à La Réunion, mais ça, c'est pas l'étranger.
Non ?
C'est la France. Ensuite, cette année prévue, Miami, l'Irlande.
L'Irlande,
mais... Miami cette année. Je sais plus. De toute façon, au Japon, j'y retourne 3 semaines, comme d'habitude.
Alors, si tu vas à La Réunion, tu salueras M. Virapoulet, qui est un vieux sénateur qui n'a plus d'âge. C'est un Malbar, comme on les appelle. Malbar, c'est qu'ils viennent de la côte sud de l'Inde. Et dans les années 1975-80, il était à La Réunion, Jean-Paul Virapoulet. Il avait acheté une vieille Cadillac, parce qu'il y avait le bateau, le Pierre Loti, qui faisait deux fois par an le voyage Kerguelen-Réunion. Et il avait racheté une vieille carcasse de Cadillac qui était dans un état pourri, parce que les Kerguelen, c'est des îles franco-russes, non pas le dessert chocolaté qu'on connaît bien, industriel, fabriqué par Merci, on ne va pas citer la marque. Eh bien, Jean-Paul Virapoulet avait acheté cette vieille Cadillac décapotable des années 50, c'était une Deville, je crois, et il l'avait fait refaire à La Réunion. Elle était magnifique, elle était splendide, elle était rutilante, mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Le Bon Coin, il n'y avait pas eBay, il n'y avait pas Oscaro.com, il n'y avait pas, bref, tous ces sites Internet. Il n'a jamais pu refaire la capote, qui aurait coûté une véritable fortune. Donc il avait cette Cadillac rutilante, et lui, un petit Malbar, comme on dit. Donc il était tout petit et tout noir de couleur, bien entendu, ça n'est pas péjoratif. Et il se baladait dans sa Cadillac toute blanche. Et un jour, il y a deux créoles qui l'ont vu passer. Il y en a un qui a fait en créole « Get ça, bonhomme, bouteille Coca-Cola dans frisidaire ». Ça, c'était les créoles avec le rumour bien créole. On salue les Réunionnais qui nous écoutent, notamment le Gavroche. C'est bientôt la saison des lechis dans l'hémisphère sud. L'île de La Réunion est à côté de l'île Maurice. L'île Rodrigue, qui est une île qui appartient à l'île Maurice, bien entendu, mais on ne peut pas y aller que par Air Mauritius. Si vous allez dans l'océan Indien, eh bien, vous apprendrez le créole de l'océan Indien. Vous mangerez du rougail saucisse, vous mangerez du colombo, vous mangerez des épices, vous mangerez des choses merveilleuses et sensationnelles. Donc, et redonne quand, un petit peu le site
et
internet.
Quand je vais à La Réunion, je vais toujours manger chez Madame Canard.
Chez Madame ?
Madame Canard. Madame Canard qui nous fait à chaque fois toujours du canard à la vanille. Mais cette dame, elle a 97 ans. Et elle est encore en cuisine.
Canard
et,
vanille.
Et elle travaille encore. Et c'est excellent ce qu'elle fait.
Alors c'est vrai que c'est le fief de la vanille Bourbon. Rappelez-vous que la vanille est originaire du Mexique, que c'est Christophe Colomb qui l'a ramenée et que malheureusement on ne pouvait pas la planter ailleurs puisque l'insecte, le moucheron qui pollinise la vanille ne vit qu'au Mexique. Donc c'est le jardinier de Louis XVIII à l'époque, dans la moitié du 19e siècle, du 20e siècle pardon, qui a tout simplement pollinisé artificiellement la vanille, et c'est pour ça qu'on a de la vanille dans le monde entier. Il y en a à Madagascar, c'est la même vanille qu'à La Réunion, c'est la même vanille qu'à l'île Maurice, la vanille Bourbon, mais vous avez d'autres souches de vanille également, au Mexique, ne l'oubliez pas, et surtout la vanille de Tahiti, qui est exceptionnelle, de très grosses gousses, très luisantes. La vanille coûte très cher, mais c'est pas la gousse qui coûte cher, c'est ce qui est les petites graines qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc, quelle heure est-il, Francis, président de la radio ? Ah, il est 15h55, on peut encore écouter un petit morceau de musique. Allez, mes amours, un dernier petit morceau de musique avant la fin de l'émission, et un dernier tour de table. Non, on me dit que non, c'est moi qui ai dit une bêtise, excusez-moi. Donc on va continuer, on va donner le mot de la fin. Excuse-moi, Damien, c'est moi qui suis à côté de mes baskets. Mais c'est vrai que l'eau commence à monter, j'ai de l'eau au nombril, les coucougnettes sont passées dedans. Le plus dur, c'est le nombril à refroidir chez moi. J'aime pas l'eau froide, j'aime pas quand il pleut, j'aime pas quand il y a de la pluie, mais il en faut bien. Alors, le mot de la fin pour Monsieur Brossard.
Eh bien, enchanté d'être avec vous, et puis ravi de pouvoir développer sur le chocolat, et j'espère qu'on continuera à faire de la qualité. Et pendant de nombreuses années.
Là, je ne suis pas inquiet parce que je sais que tu as commencé tes guinettes.
Les premières sont sorties il y a 8 jours.
Tes premières cerises de ta production, oui, et de ta cueillette.
Oui, on a nos arbres en Charente, la Montmorency qu'on cueille en juin, et on a fait les premières guinettes au cognac.
La Montmorency, cette petite cerise aigre, hein, que l'on trouve surtout dans l'est de la France, en Lorraine, en Franche-Comté, dans le territoire de Belfort, 90. Tiens, une petite question toute bête, pourquoi Belfort à 90 ? Alors que d'autres départements, c'est pas d'ordre alphabétique. Eh bien, quand on a classé les départements, Belfort n'était pas français, c'était allemand encore à l'époque. Donc il n'y avait que 89 départements, ça s'arrêtait à Lyon. Et Belfort était francisé en 1928. Et donc on a rajouté Belfort à la fin, on rajoute un, plutôt que de décaler tout le monde, ça aurait coûté une fortune de changer tous les départements avec la lettre B, qui aurait bouleversé complètement l'équilibre de nos départements, 90 après 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, mais ça c'est une autre histoire. Donc chocolat, cacao, la Côte d'Ivoire, des gamins, des mômes qui n'attendent qu'une chose, de partager avec nous, avec vous. Et c'est une bonne action que de payer son chocolat un peu plus cher, tout simplement. Mais payer du vrai chocolat, sans colorant, sans conservateur. Et quand on regarde les plaques de chocolat de Monsieur Brossard Patrick, et non pas Patrice, on s'aperçoit qu'il y a du beurre de cacao et du cacao et un peu de sucre, c'est tout, rien d'autre.
Et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour.
Mais bien sûr, de l'amour.
De la passion.
Et de la passion. On va passer au drone maintenant. Un message à passer Luc et non pas Lucien, je le répète.
Oui, déjà je voulais vous remercier de m'avoir invité. J'ai passé un excellent moment avec vous. N'hésitez pas, dès que vous pensez drone, dès que vous voulez des photos, de la vidéo, drone40.fr.
Drone40.fr, je redonne le numéro de téléphone 07 67 48 61 12. J'ai été un peu vite involontairement. 07 67 48 61 12. Une prise de vue de drone, besoin d'un drone pour des raisons professionnelles, délimiter un terrain, vérifier des problèmes de voisinage et tout ce que l'on peut imaginer. Drone40, www.drone40.fr. Monsieur Philippe Gardette, le mot de la fin.
Oui, merci Gérard, c'était une super émission, content d'être là, comme d'habitude.
On est dans le partage, on est dans la convivialité avec la radio de l'Entre-deux-Mers, votre radio, votre fréquence sur l'Entre-deux-Mers. Nous vous souhaitons un excellent week-end et nous sommes bien vivants, contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire. On vous fait des gros bisous, tout en pensant à tous ceux que l'on aime. Et surtout un bisou, un câlin, c'est contagieux et c'est de la bonne contamination. Et que l'on ne trouve jamais de vaccin contre les bisous et les câlins. Et je continue de remercier la SNCF parce que les trains continuent de défiler. Je suis même inquiet. Je me demande même s'ils ne vont pas avoir des heures supplémentaires à faire.
Et bonne gourmandise sur le salon de la foire.
Merci.